l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Queyrouga.
On se trouve en Suisse, dans un canton qui s'appelle le Jura. Et puis dans ce canton-là, il y a un haut plateau calcaire qui s'appelle les Franches Montagnes. D'abord, quand on arrive en haut de la butte, c'est une butte qui a été construite au XVIIe siècle. L'étang était déjà là, cette tourbière a 12 000 ans. Mais au XVIIe siècle, ils ont construit une butte pour que le lac s'agrandisse, pour construire un moulin en dessous. Ces zones de haut marais, c'est des tourbières. Et puis ici, on est dans la plus grande des tourbières des Franches Montagnes qui s'appelle l'étang de la Gruère. Un étang parce que ça ne fait pas plus de 8 mètres de profondeur d'eau. Par contre, la tourbière, elle, à par endroit, fait 9 mètres de tourbe. Et qu'est-ce que c'est de la tourbe? Eh bien, c'est un endroit dans lequel le glacier s'est retiré, comme une langue qui se retire. Il a creusé en se retirant il y a 12 000 ans. Puis du coup, ça a créé une zone étanche qui garde l'eau, donc ça devient humide. Et puis il y a une plante qui s'appelle la sphaigne, et cette plante qui s'appelle la sphaigne, c'est une plante particulière, elle n'a pas de racines. La base de la plante se décompose gentiment, c'est une décomposition lente. Et puis du coup, cette décomposition, elle se transforme en tourbe. Ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle fait pousser des plantes qu'il n'y a pas ailleurs parce qu'elle est c'est acide sur un sol neutre. Donc il y a des plantes carnivores comme la drosera, que les enfants adorent observer, qui digèrent gentiment des petits insectes. Enfin, il y a plein de plantes et de faunes particulières qu'on ne trouve pas ailleurs. Ça fait un univers assez particulier parce que la tourbe, comme elle n'a pas de racines, elle est un peu comme un radeau, donc quand on marche, on sent que c'est mou, on sent que c'est gorgé d'eau, c'est d'une éponge, et puis qui est comme un radeau. Donc on est dans un univers, quand on arrive ici, on change d'univers en quelques minutes. Une autre particularité, c'est que la tourbe, comme elle se décompose très lentement, elle ne décompose pas tout ce qu'il y a à l'intérieur, parce que ben, la tourbe, c'est de la sphaigne, mais comme c'est un peu comme de la mousse, ça garde les pollens des arbres en dessus, ça peut-être garder un objet qu'un humain a fait tomber. Ben, tout ça, ça ne se décompose pas. Et du coup, quand on fait des carottages, on a fait des carottages jusqu'aux 12 mètres, jusqu'aux 12 000 ans, on peut voir que, par exemple, dans cette région, il y avait d'autres arbres. Maintenant, il y a essentiellement de l'épicéa. Il y avait de l'orme, du chêne, les climats étaient, il faisait 3 degrés de plus par exemple. Et puis dans chaque région de France, il y a des hauts marais comme ça protégés. Et puis on peut voir l'histoire de la région au niveau pollen, insectes, vie sur terre en fait. Parce que tout est préservé dans la tourbe.
Valérie, toi tu es guide de moyenne montagne en Suisse. Il y a quand même certainement des... Tu as vécu en France et tu dois connaître quand même un peu... Tu dois avoir une connaissance de la Suisse un peu en comparaison de la France, notamment sur l'éducation à l'environnement.
Une chose qui est bien différente, c'est qu'en Suisse, ce n'est pas encore légiféré. C'est-à-dire, oui, ce qui est glacier, quand on doit s'équiper pour emmener les gens. Mais il y a... Par exemple, un prof d'école, un maître d'école qui veut partir dans la nature avec sa classe, avec ses élèves, ben, il n'a pas besoin d'engager un guide, de quelqu'un de diplômé qui a un BPGEPS, animateur en nature ou quoi. En fait, il n'y a aucun diplôme, ce n'est pas encore légiféré. Du coup, ça fait que ça laisse beaucoup plus de liberté et que toutes les classes d'école vont beaucoup dans la nature. On va, par exemple... On imagine qu'on est en groupe, en cours de sciences, qu'on a envie de connaître mieux les insectes dans son programme scolaire. Eh ben, on va les observer, on va commencer par les observer dans la nature parce qu'on n'a pas besoin d'un diplôme, on n'a pas besoin d'un brevet ou de quelque chose. Donc ça laisse beaucoup plus de liberté à que ça soit aux profs, aux éducateurs dans, par exemple, les crèches. Tous les groupes dans lesquels on gère des enfants, eh ben, on est dehors beaucoup plus souvent. Donc il y a une approche plus régulière, une approche plus régulière. Et puis, du coup, ça fait que les enfants grandissent avec la nature et pas avec la nature qui est quelque chose de lointain, puis qui fait partie de... Un jour, on va au cinéma, un jour, on va à la nature, un jour, on va visiter la ferme. C'est pas une visite, quelque chose d'extérieur, ça fait partie du quotidien de l'enfant, en fait.
Et puis surtout dans certains types d'écoles. Alors, il y a des écoles particulières en Suisse pour les enfants?
Oui, alors ça a démarré dans les années 70 en Suisse allemande. Et puis maintenant, on y vient aussi en Suisse romande. Et ça, c'est très heureux parce que mon fils lui-même est dans une école comme ça. C'est des écoles, surtout pour les petites classes, des écoles à la forêt, comme on appelle ça, qui utilisent la pédagogie par la nature. Et puis cette pédagogie par la nature, elle a été amenée ici en Suisse, puis maintenant elle commence à se développer en France. C'est un tout début par Sarah Vauquier. Elle a écrit un livre avec un espèce de mode d'emploi, pourquoi aller dehors, comment aller dehors, des activités toutes faites. Puis du coup, ça a facilité l'idée à des maîtres d'école qui auraient cette envie-là. Alors, voilà quoi. Moi, par exemple, mon fils, il va dans une école à la nature et tous les lundis et tous les vendredis, de toute l'année, quelle que soit la météo, ils sont dehors. Et ils expérimentent, ils sont dans le jeu libre. Il y a des ateliers de découverte proposés, mais l'enfant, il navigue, il passe d'un atelier à l'autre ou il joue parce qu'il est dans sa découverte ce jour-là. Et puis, il met les mains, la main à la pâte, comme on dit, quoi.
Alors là, c'est lui qu'on entend taper juste derrière. Tu peux nous expliquer ce qu'il fait sur l'étang?
Ah, je pense qu'il n'y a que lui qui le sait. Il est en train d'expérimenter la force qu'il a par rapport à la glace. Donc, il se confronte à la nature. Je pense qu'il se dit, c'est elle qui... J'imagine, si je suis dans sa tête, qu'il expérimente sa force vers l'élément, quoi. Est-ce que la glace me résiste ou pas, quoi.
Un peu comme tous ces enfants qui font des châteaux de sable contre la marée.
Exactement, quoi. Mais ma foi, en général, la marée, elle revient tout le temps. Là aussi, la glace va se reformer tout le temps. Mais Gabin, tu recules un petit peu. Là, t'es quand même les pieds dans la glace. Elle n'est pas assez solide aujourd'hui pour te soutenir.
Du coup, dans cette école, dans la nature, on les laisse beaucoup libres, c'est ça l'idée, non?
Oui, c'est de ne pas interférer dans la découverte de l'enfant, dans ce qu'il est en train de faire, dans ce qu'il est en train de vivre. Et puis, même quand il est en train de rien faire, il est peut-être en train d'écouter ou il est en train de s'ennuyer, mais il va trouver en lui les ressources. Avec ce qui se passe autour, il y a un oiseau qui va passer, il va l'observer, tac, il est reparti. Donc on les laisse vraiment assez libres. Ouais, c'est vraiment du jeu libre, quoi, comme on appelle ça. Mais il y a toujours un atelier cuisine, parce qu'ils cuisinent, ils font du feu chaque jour. Ils cuisinent leur goûter eux-mêmes. Donc les enfants qui ont plaisir à les cuisiner sont invités, ils coupent. Donc il a 4 ans, il sait manier un couteau suisse, il sait tailler... un bâton, il sait cuire quelque chose sur le feu, il sait allumer, prendre une allumette, allumer le feu, et puis voilà quoi.
C'est à quel âge du coup?
4 ans.
Voilà, hein, ça va faire réfléchir un peu, voilà. C'est les rendre finalement plus autonomes aussi, plus prendre leurs responsabilités.
Gabin, reviens. Oh non!
Thank you.
Xenophobic, schizophrenic, estate agents, chauffeurs, masseurs, village people, townsfolk, gypsies, bitmen, Arabians, tightrope walkers, snowboarders, couriers, porters, VIPs, carriers, farriers, taxidermists, remedials, tossers, rednecks, apes, hunters, miners, lovers, husbands, wives, lost souls, soulmates, agoraphobics, arachnophobics, claustrophobics, maniacs, hunters, shunters, and...
Shut up!
Alors donc Valérie, ton activité de guide de moyenne montagne, elle est assez diversifiée. Tu as créé ta petite entreprise ici en Suisse. Tu proposes plein de choses pour faire découvrir la nature aux adultes et aux enfants. Tu peux nous parler un peu de toutes ces activités que tu fais?
Alors, j'ai cherché à créer une entreprise qui me ressemblait. Et puis, comme je suis un petit peu multifacette, ben mon entreprise est multifacette. Du coup, je fais des spectacles de contes parce que je suis conteuse dans la nature. Donc, c'est-à-dire, c'est des balades où on s'arrête, on écoute un conte qui parle d'un chêne au pied d'un chêne. Voilà. Des fois, c'est des balades qui sont gourmandes aussi. Je donne des ateliers de découverte de la nature. Dans un autre domaine, je donne des ateliers de découverte de la nature pour des classes d'école. Des parents, certaines fois, m'engagent pour organiser l'anniversaire de leur enfant sous forme d'atelier de découverte. Genre, c'est rigolo, allez, on découvre le cycle de l'eau qui habite le ruisseau. Et puis, c'est pour animer l'anniversaire d'un enfant. Et puis, j'organise pour tout groupe, que ce soit des groupes d'entreprise, des sorties de vie de jeunes filles, toujours des choses qui sont de la découverte de la nature de manière ludique. Il y a toujours des histoires avec du patrimoine, de la nature, de la découverte.
Sorties de vie de jeunes filles, c'est-à-dire quand on se marie?
Ben, ici, il y a une tradition quand on se marie, en fait, de... avant de faire une surprise, les amis filles de la mariée se réunissent une journée, font une surprise, vont un peu la kidnapper chez elle, elle n'est pas au courant, et puis font des activités avec elle sur la journée, comme pour profiter une dernière fois d'elle. Bien sûr qu'on voit encore les personnes une fois mariées, mais c'est une vieille tradition d'organiser une journée d'activités et de fêtes pour la marier avant le mariage.
Alors ça se fait aussi beaucoup en France, mais souvent c'est des grosses beuveries. Là, toi, tu proposes une sortie dans la nature?
Oui, moi j'organise une sortie dans la nature dans laquelle on est à pied. Par exemple, il y a une randonnée à faire et puis on a des petites balises à retrouver. Puis sous chaque balise, il y a une partie de l'apéro, donc il y a quand même le côté festif en fin de journée, mais sur la journée, ils vont gagner petit à petit en faisant des défis nature, leur apéro.
Donc c'est une chasse au trésor apéro.
Voilà, une chasse au trésor à la découverte de la nature, en pleine nature, qui se termine de manière conviviale quand même. Enfin, c'est convivial toute la journée, mais voilà. Ici, on est à 20 minutes de la frontière. Du coup, ça m'arrive d'avoir des Alsaciens. Parce que c'est là où c'est le plus proche au niveau français. Mais c'est en particulier des gens de la région proche. Mais j'organise aussi des séjours à la découverte des Cévennes parce que c'est là que j'ai fait mon métier de guide. Et donc, c'est avec des Suisses. On part tous ensemble visiter les Cévennes. Et puis, du coup, je garde un lien avec la France et puis avec certaines régions que j'ai gardées dans mon cœur.
Et alors, dans les Cévennes, vous faites quoi?
Ben, on va à la découverte du Tarn. On va faire, on va au Molosère. On découvre les sources du Tarn, puis au fil du séjour, on redescend le Tarn quand il est d'abord une source, ensuite un ruisseau, un torrent, et puis pour finir à la rivière, à observer les vautours dans les gorges de la Jonte.
Alors ces séjours dans la nature, c'est pas uniquement se promener. Tu parlais d'une approche sensorielle, d'une approche par les émotions, mais qu'est-ce que tu as comme retour des participants? Qu'est-ce qu'ils ont finalement apprécié, découvert avec toi, au-delà de juste des informations naturalistes?
Bah, en règle générale, les retours que j'ai, c'est déjà du partage, parce que moi je pars du principe que les gens qui viennent avec moi ont aussi des connaissances. Du coup, c'est jamais un cours magistral, c'est plutôt des moments d'échange et de partage, que ce soit de convivialité ou de connaissances. La deuxième chose, c'est que c'est ludique. Moi, je pense que c'est à travers le jeu qu'on apprend le plus de choses, même si c'est apprendre de son corps, apprendre de ce qu'on ressent ou apprendre de la nomenclature, peu importe, en jouant. Donc, moi, je mise vraiment sur le côté expérimenter, tâtonner et puis jouer dans la nature.
Tu fais aussi d'autres activités ?
Oui, en fait, mon objectif premier était de sensibiliser le plus de monde à la nature, parce que parfois, je rencontre des gens qui ont ce lien qui est coupé. Et du coup, j'ai voulu, le but, c'était de sensibiliser le plus de gens à la nature. Et je remarque quand même que les gens qui choisissent mon activité, par exemple, on a envie d'organiser une fête de famille, ceux qui choisissent de le faire en immersion dans la nature, c'est des gens qui ont déjà ce goût. Du coup, par la suite, après 2-3 ans, j'ai cherché à toucher plus de monde. Et puis ma solution à moi, ça a été de former des maîtres d'école, de former des éducateurs qui travaillent dans des crèches, de former des gens qui travaillent dans des foyers. En fait, toutes les personnes qui s'occupent de groupes d'enfants, puis de les former à avoir le goût de eux sortir et comment sortir et comment rester en sécurité, accompagner un groupe et puis donner du plaisir à leur groupe. Et du coup, je donne des formations aussi justement à des groupes d'adultes qui sont dans ces métiers-là pour qu'ils aient le goût de sortir et des idées d'activité, toutes ces choses. Et du coup, indirectement, je touche plus de monde.
Alors pourquoi les gens ils sont déconnectés à la nature pour toi ?
Il y a plusieurs choses. Moi, je pense qu'on est dans une société actuelle qui va vite, puis la nature, elle va pas vite. Donc, il y a un décalage, on est dans la vitesse. On va vite faire les courses, on va vite au travail, on doit vite faire ça. Et du coup, on prend plus le temps d'écouter, de regarder autour de nous parce qu'elle est partout, la nature. Je pense qu'il y a ce décalage-là. Il y a peut-être aussi les écrans, la dématérialisation, comme je l'appelle. Parce que du coup, certains enfants sont hyper connectés aux écrans. Et puis, ils ont regardé une émission sur les insectes. Alors, ils pensent qu'il n'y a pas besoin d'aller les observer. Ou les parents pensent qu'il n'y a pas besoin d'aller les observer. Puis, on ne vit plus les choses par le corps. Moi, c'est vraiment cette connexion-là de le vivre par le corps pour intégrer les choses et pas juste les apprendre.
Alors, par le corps, ça veut dire les 5 sens. Parce qu'au final, les écrans, c'est juste la vue.
Quand on expérimente le fait de faire du feu, même si c'est avec une allumette, mais de craquer l'allumette, d'avoir construit une pyramide avec des bouts de bois, puis on essaye de lancer, puis un petit peu de vent, puis ça prend pas, ben on a expérimenté soi-même, on a vécu l'humidité, on a eu la chaleur sous les doigts. C'est quelque chose qu'on a intégré, le corps l'apprend, et puis on l'apprend par le corps et par l'esprit. Par contre, si on regarde une émission où on apprend à faire du feu, eh ben, on sait la technique, on l'a vue, on la sait, mais on ne l'a pas expérimentée. On la connaît, mais on ne l'a pas intégrée, je pense. Et puis, en ce moment, j'ai une nouvelle activité. C'est que jusqu'à aujourd'hui, je donnais des formations à des professionnels qui vont avec des groupes d'enfants. Et puis, j'ai eu envie de répondre à une demande. Donc, je suis en train de mettre en place un nouveau projet qui touchera plus des grands-parents, des parents qui, eux, ne savent plus, qui sont un petit peu déconnectés, mais qui ont envie de se reconnecter, mais qui ne savent pas par où commencer, où leur enfant aime beaucoup les écrans, puis ils se disent « on s'ennuie dans la nature ». Et du coup, je suis en train de mettre en place tout un programme auquel on pourra s'abonner de manière virtuelle, par Internet, pour donner toutes mes astuces, mes trucs, mes activités, quelle activité, à quel âge, à quelle saison. Et puis, ben, en fait, j'ai envie de partager toutes mes astuces à moi, quoi, toutes mes ficelles.
Alors du coup, si on veut te contacter pour voir redécouvrir la nature d'une autre façon ou se reconnecter avec toi, c'est quoi le nom de ta petite entreprise ?
Mon entreprise s'appelle Valgabonde et puis j'ai un site internet valgabonde.ch.
Donc dans le Jura suisse ?
Ben, elle se trouve dans le Jura suisse, précisément dans un petit village qui s'appelle Verme. Ça s'appelle Valgabonde parce que mon prénom c'est Valérie et puis que c'est au détour d'un chemin, d'un sentier que peut-être nos projets peuvent se croiser.
Merci Valérie.
Merci à toi Claire.
Yeah.
C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur internet.